C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes vendredi 7 octobre. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. Alors, ce matin, ciel couvert, peut-être quelques gouttes de pluie. Les averses comme telles, en nombre limité, sont prévues pour l'après-midi. Ça devrait cesser également un peu plus tard. Avec des vents jusqu'à 40 km/h. Le maximum aujourd'hui, rapidement atteint, 16 degrés. Et ça va descendre en après-midi pour tourner autour de 10, 11 degrés. Un dégagement pour la nuit. Et là, on prévoit un minimum de 2 degrés, et on peut même dire plus 2, avec du gel par endroit, c'est l'avertissement d'Environnement Canada. Pour samedi, c'est du soleil 12, dimanche, la pluie intermittente 13, et lundi, congé de l'Action de grâce, 11 degrés et ensoleillé. Ce matin, on va faire le tour, je dirais, de certaines missions de l'État et certains enjeux importants. Je vais commencer par la santé. Aaron Derfel, journaliste chevronné de Gazette, revient ce matin avec des chiffres sur le cancer. Parlait hier de l'augmentation du nombre de patients qui doivent attendre avant d'être traités. Je rappelle ce chiffre, 1 sur 5 qui attend plus longtemps que ce qui est médicalement acceptable. Alors, ce matin, ce sont des projections qui sont faites et ça va exactement dans le même sens que ce que le docteur Martin Champagne disait de l'Association des oncologues et hématos. C'est-à-dire qu'on diagnostique maintenant, j'allais dire trop tard, ou en tout cas plus tard qu'avant, des cancers. Et on pense que le taux de mortalité attribuable au cancer devrait, dans les prochaines années, augmenter de 10 à 25. Le docteur Gérald Baptiste, qui est de l'hôpital juif de Montréal, dit ce qu'on constate, c'est qu'on a maintenant des patients qui ont des cancers de plus en plus avancés. Peu importe la spécialité en médecine, nos patients se retrouvent avec des tumeurs, des lymphomes, et dans tous ces cas, et pas un ou deux, là, vraiment, il y a comme une tendance qu'on n'a pas vue dans les dernières années, donc des cas plus avancés, ce qui veut dire que les traitements, malheureusement, risquent d'être peu efficaces. Et quand vous regardez la carte du cancer au Canada, faut juste savoir que le Québec est un des endroits où, par citoyen, on a un nombre élevé de cancers. Ce sont dans les provinces de l'Ouest où c'est le plus bas per capita, alors que Québec, Terre-Neuve, par exemple, disons qu'on a une performance pas très, très reluisante en termes de cancer. Puis on n'a pas tous les outils non plus pour suivre l'évolution du cancer. J'insiste là-dessus parce que c'est une maladie qui touche beaucoup de monde et qui va toucher beaucoup de monde. Et on se rend compte qu'un des effets du délestage puis de l'ensemble des facteurs qu'on connaît dans le réseau de la santé, bien, il y a des gens qui vont payer le prix de ça parce que le diagnostic va arriver trop tard puis on ne sera pas en mesure de leur offrir des soins, disons, qui auraient été peut-être plus appropriés. Ça, c'est un. Et je rappelle la sortie de la Fédération des médecins spécialistes du Québec hier en disant qu'il y a des médecins qui sont prêts à faire plus. Des médecins qui entrent et qui ont une priorité opératoire par semaine, ou des médecins, chirurgiens par exemple, qui peuvent opérer 6 patients dans une journée, puis parce qu'il y a un micmac bureaucratique, ben il y en a 2 qui se présentent pas. Puis il va falloir un jour questionner la machine, l'efficacité de cette bureaucratie. D'autre part, parler aussi d'immigration, parce qu'on sent, là, c'est un enjeu qui va être majeur. Monsieur Trudeau a dit non à la demande de François Legault d'accorder plus de pouvoir au Québec. Réponse de M. Trudeau, Québec a tous les pouvoirs nécessaires, puis le ministre Pablo Rodriguez avait dit un peu la même chose. M. Legault a dit hier, c'est pas vrai qu'on va arrêter la discussion. Ça arrive au moment où Radio-Canada nous dit que le fédéral pense à régulariser le statut de centaines de sans-papiers. Je vous le dis tout de suite, c'est flou, difficile à bien cerner. Mais ce sont des gens qui pourraient obtenir le statut de résident permanent. 500 000 personnes qui seraient touchées. Et là, on parle pas de gens qui sont entrés, par exemple, par le chemin Roxham, ou encore des gens qui sont venus ici comme travailleurs temporaires ou demandeurs d'asile. Ce sont des gens qui avaient peut-être un statut, mais qui l'ont perdu pour toutes sortes de raisons. un visa expiré. Il y en a qui ont disparu dans la nature. Il y en a qui font du travail un peu au noir. Alors, et ça représente une partie majeure de la main-d'œuvre qui est quand même active au Canada. Alors, il semble que les premiers fils ont commencé à être attachés, mais on est loin d'une entente. Deux, on pense que Québec pourrait être réticent. Et rappelons-nous la saga des anges gardiens, quand on a débattu de la possibilité de leur octroyer le statut de résident, compte tenu de leur contribution pendant la crise. Puis M. Legault voulait pas trop, puis il mettait des bémols. Et on le sait, là, c'est un sujet litigieux entre le fédéral puis le Québec, puis c'est un sujet extrêmement délicat, surtout avec les dérapages qu'on a connus durant la campagne électorale. Autre dossier concernant les vocations de l'État, c'est le milieu scolaire. Ce matin, la presse nous apprend que les redoublements sont même de plus en plus rares malgré les retards scolaires. Puis si on résume l'histoire au Québec, à une époque, un élève qui avait des mauvaises notes pouvait redoubler, puis se reprendre, et redémarrer sur de nouvelles bases. Puis là, il y a eu des réformes, puis là, après ça, on a dit non, c'est pas bon pour l'enfant. Puis ça va affecter son estime de soi, puis c'est pas une bonne idée. On a changé encore cette approche-là plus tard en disant qu'on pouvait le faire, mais pour de rares exceptions. Et là, les profs puis les parents, puis il y a même des parents qui sont allés contester. On donne l'exemple ce matin d'un parent au centre de services scolaires de Laval. C'est une mère, Dominique Dubois, qui s'est battue pour que son fils, qui a des gros problèmes, redouble sa troisième année. Elle a eu l'avis de l'enseignante, de l'orthopédagogue. Puis finalement, on a décidé de le faire graduer quand même. Alors, t'as des enfants qui vont faire toutes les étapes, statistiquement, ça paraît très bien, mais qui sont pas nécessairement capables de vraiment répondre aux objectifs. Et les parents doivent se battre avec des directions d'école parce qu'eux sont convaincus que c'est pas la meilleure chose pour leur enfant. Je suis pas un expert, là, mais quelqu'un qui a des difficultés en deuxième année, puis qu'on fait graduer en troisième, puis que les difficultés s'amplifient, puis qu'on fait graduer après en quatrième, me semble que c'est pas bien bon. Me semble que ça donne pas les résultats. Alors, la presse vous donne ces chiffres-là. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'avant la pandémie, il y avait plus d'élèves qui doublaient que la période qui a suivi, ou en tout cas, la période de la pandémie. Alors que on sait que l'enseignement à distance, pour un bon nombre d'élèves, ça a été extrêmement difficile. Très bien. Et on vient de parler de l'essence. On a aussi des chiffres ce matin concernant les ventes de véhicules au Canada. Puis c'est encore une période assez difficile pour les concessionnaires automobiles. Officiellement, les chiffres qui ont été publiés montrent qu'on est en baisse de 22% par rapport à septembre 2019. Puis il y a toujours les mêmes enjeux, là, l'approvisionnement. T'as beau vouloir acheter un véhicule, les délais, en tout cas pour certains modèles, sont extrêmement longs. Et aussi les taux d'intérêt. Puis hier, la Banque du Canada, si vous avez entendu le bruit de la banque, on pense qu'on va devoir augmenter encore les taux d'intérêt pour mieux contrôler l'inflation. Donc, pour les prêts auto, ça veut dire que ça va coûter de plus en plus cher. Un petit mot sur la politique quand même. Je vais en reparler avec Jonathan Trudeau tantôt. Il y a deux éléments ce matin, je pense, qu'il faut soulever. D'abord, la formation du Conseil des ministres. Et on comprend que c'est difficile parce qu'il y a 89 députés plus le PM. Puis tu veux la parité, la représentation régionale, puis il y a des gens qui sont compétents, puis déjà ils ont été identifiés, finance, économie, santé. Qui tu tasses, qui tu gardes, qui tu fais monter. Bref, il y aura évidemment des insatisfaits. Et là, j'ai observé hier le ministre Geneviève Guilbeault qui est sortie en disant « Je ne veux plus être la ministre responsable de la vieille capitale, la capitale nationale. » C'est comme, avant qu'on me l'enlève, là, je vous le dis, j'ai pris ma décision. J'ai vu ça souvent quelqu'un sortir en disant « Le titre ne m'intéresse plus » avant que le premier ministre ait fait son choix. Je pense que dans les faits, ça fait l'affaire de tout le monde, là, de tasser Mme Guilbeault, qui n'a pas que développé de bonnes relations dans la région de Québec avec le maire Labeaume à l'époque, puis avec le nouveau maire Bruno Marchand. Puis si vous avez lu les papiers de Régis Labombe dans la presse, vous avez compris que c'était pas le roman d'amour entre les deux, bien au contraire. Donc, un vent nouveau. Qui va être ministre responsable? On le sait pas. Mais c'était assez drôle de voir hier les deux petits pas de côté, les deux petits pas en avant pour dire que finalement, vous savez, ça ne m'intéresse plus. L'autre élément important, c'est la reconnaissance du Parti québécois et de Québec solidaire qui, officiellement, ne rencontre pas les statuts pour obtenir une reconnaissance donc formelle et des budgets qui vont avec à l'Assemblée nationale. Le Parti libéral refuse de s'engager, contrairement au gouvernement, là, à considérer cette option pour avoir des oppositions fortes devant un gouvernement qui a énormément de députés. Je veux juste rappeler que la distorsion du système de scrutin fait en sorte que le Parti libéral est l'opposition officielle avec le parti qui a le moins de voix dans l'opposition, à peine devant les conservateurs. Fait que je trouve ça un peu particulier de voir la chef, Mme Anglade, nous dire, ben là, on va y penser, on n'est pas certain si on va ajouter notre voix. C'est comme, on veut pas que Gabriel Nadeau-Dubois puis que le Parti québécois prenne trop de place à l'Assemblée nationale. Je pense pas que c'est ça que les Québécois ont en tête, et je pense que d'équiper l'opposition convenablement, ça me paraît un minimum. Et on verra les décisions qui vont être prises, mais ça faisait un petit peu petit de la part du Parti libéral d'avoir cette position-là. Maintenant, Hockey Canada, on en a parlé avec Alain, là, les coffres se vident tranquillement, là. Les provinces sortir, le Québec a déjà dit, ben nous, on n'envoie pas une partie des cotisations. L'Ontario a pas mal développé une stratégie qui se ressemble. Vous avez vu d'autres provinces, je pense entre autres à la Nouvelle-Écosse, qui prévoit aussi couper les vivres. Et là, je suis allé voir Manitoba également, qui veut des changements. Je suis allé voir un peu comment l'argent était ventilé. C'est intéressant parce que la publicité ou les commandites, ça représente 43% des revenus d'Hockey Canada, donc les fameux partenariats, et l'argent mis par le fédéral, c'est à peine 6%. Donc la ministre nous a dit, on a coupé les fonds. Et là, ce sont tous les commanditaires, là, pis c'est des gros joueurs, Tim Hortons, la Banque de la Nouvelle-Écosse, TELUS, Esso, il y a également Chevrolet qui a retiré la commandite. Parfois, c'est au complet, parfois, c'est que pour les activités de hockey masculin. Mais là, la pression est forte. Là, on commence à jouer dur. Et Trudeau, hier, a dit une chose qui est un message à peine voilé. C'est où vous partez, où on vous tasse, puis on crée une autre affaire, puis on change de nom, là. Et là, c'est l'entêtement, parce que la pression exercée sur le conseil d'administration d'Hockey Canada et sur la direction devient de plus en plus forte. C'est presque intenable. Alors, combien de temps ça peut durer encore? Ça reste à voir, mais c'est l'ensemble des pratiques, des cachotteries de ce lobby extrêmement puissant et de ce club privé qui se protège depuis le début de la crise, là, concernant les cas d'agression sexuelle. Je vais vous parler de la situation, bien sûr, en Ukraine. D'abord, vous dire que le prix Nobel a été remis ce matin, prix Nobel de la paix, trois récipiendaires, et c'est important de le préciser, parce que le prix est allé à un avocat qui est un militant pour les droits humains, biélorusse, qui s'appelle Aless Bialatsky, et également deux organismes humanitaires, un en Ukraine et un en Russie. C'est donc directement relié au conflit. Ça arrive au moment où les troupes ukrainiennes, à l'offensive sur les fronts depuis le début de septembre, ont repris l'essentiel de la région de Kharkiv. Le président Joe Biden a mis en garde la planète contre un risque d'apocalypse nucléaire. C'est la première fois, dit-il, depuis la guerre froide, depuis la fameuse crise des missiles de Cuba, que on est dans une situation de si haute tension. Les Russes se font brasser, les Russes perdent du terrain. Il y en a même qui disent que le commandement militaire est déboussolé, et que les soldats terrains ne se défendent plus, préfèrent fuir devant la montée des troupes ukrainiennes. Donc, quand on est tassé sur le mur comme ça, est-ce qu'il peut y avoir une réaction de panique, et la France qui envisage également d'envoyer nouveaux missiles, des nouveaux canons pour aider à la force de frappe ukrainienne. Je veux finir ce matin avec deux nouvelles. D'abord, dans la catégorie ces deux cas là dans la catégorie des fraudeurs, en tout cas des magouilleux, non confirmés. La presse nous dit ce matin que l'ancien bras droit de Vincent Lacroix, Éric Asselin, ça fait l'objet du film qu'on a vu il y a quelques mois sur Norbourg, avec entre autres Vincent Guillaume Otis. Donc, Éric Asselin serait de retour en business. Et là, il est pas supposé, mais il serait en train d'agir, c'est pas prouvé là, c'est une enquête de l'AMF, donc agir illégalement comme courtier hypothécaire dans la région de Québec. Puis ils prêtent à du monde qui sont dans le trouble. Tu sais, des gens là qui sont en deuxième hypothèque, des gens qui ont une cote de crédit pas très bonne. Et ils se présentent sous un autre nom. Éric Gagnon. Alors là, l'AMF dit, un, rappeler quand même le passé criminel de ce gars-là. Puis deuxièmement, il devrait peut-être donner son vrai nom. Puis troisièmement, son partenaire, qui s'appelle Jean-François Soucy, c'est la firme Groupe Courtier Expert. Ben continue d'aller voir des clients, puis refile le dossier à Éric Asselin. On sait qu'il avait reconnu avoir participé aux magouilles chez Norbourg pour mettre la main sur le cash des épargnants. Et il y avait auparavant, il avait travaillé donc ce qu'on appelait à l'époque la commission des valeurs mobilières. C'était une fraude de 100 millions. Et l'autre, c'est le Journal de Montréal, rapidement. L'ex-président de l'Ordre des comptables agréés du Québec, Claude Gauvin, puis sa conjointe, qui aurait volé pendant 8 ans pour 200 000 piastres à une résidence pour personnes âgées qui a été créée par le clergé. Ce sont des prêtres à la retraite. Madame s'occupait, semble-t-il, de la gestion et monsieur aurait bénéficié d'un montant important d'honoraires alors qu'on pensait que c'était plutôt du bénévolat qu'il faisait. Et ils se sont payés des travaux somptueux à leur résidence dans la région de Québec, là. Une terrasse, également des électroménagers, des meubles, un système audio. Ils auraient remboursé. Mais donc le Journal de Montréal qui nous raconte la vie des gens honnêtes et célèbres.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Le système s'est peut-être amélioré si on le compare il y a quelques années, dans les, je sais pas moi, les années 90, par exemple. Mais quand quelqu'un veut porter plainte pour agression sexuelle, malheureusement, parfois, ça demeure très compliqué. Notre invité, Philippe, c'est un nom d'emprunt, a été victime d'agression sexuelle alors qu'il était d'âge mineur. Son agresseur, c'est un intervenant de la DPJ, qui a plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre lui. Et avec son témoignage, vous allez comprendre que ça a été quand même extrêmement compliqué, ardu même, d'aller déposer une plainte et aux différentes étapes. J'en parle donc avec lui. Philippe, bonjour.
Bon matin, M. Arcand.
Donc, vous avez décidé de porter plainte un jour contre cet intervenant de la DPJ pour agression sexuelle. Peut-être d'abord nous placer dans le contexte. Comment la DPJ est entrée dans votre vie?
Oui, ben écoutez, pour répondre à votre question, en restant très très superficiel, mettons qu'au niveau de mon adolescence, il y a une période de turbulence là avec mes parents. Donc à ce niveau-là, l'intervenant s'est intégré un petit peu là dans le dossier en matière de médiation. Donc il a fallu ventiler un petit peu. La situation s'est résorbée quand même très rapidement. Donc c'est pas un cas de je dirais lourd de DPJ. Je suis pas un enfant de la DPJ qui a grandi là-dedans. Ça a été vraiment d'une manière très très spontanée et ça a fait intégrer cet individu-là dans notre vie.
OK, parfait. Donc, intervention ponctuelle, mais là, cet intervenant, il est dans votre vie. Parlez-moi un peu des relations qu'il a avec vous à ce moment-là, quand vous êtes un adolescent.
Oui, ben écoutez, c'est tout simplement l'intervenant, l'ETS qui est au dossier, qui est à l'application des mesures. On a des relations qui, avec le temps, bon, se resserrent. Comme je disais, je ne tomberai pas vraiment dans la particularité du dossier, mais nécessairement, ça l'amenait à des agressions sexuelles. Donc, il y a eu un build-up qui s'est fait, il y a eu une désensibilisation. Et effectivement, cet individu-là a plaidé coupable à ces actes d'accusation-là, d'agression sexuelle sur un mineur.
OK. Donc, il vous a agressé. Comme beaucoup de victimes, vous l'avez absorbé, puis vous avez gardé ça pour vous. Puis un jour, vous avez dit, je vais aller porter plainte à la police.
Mm-hmm.
Comment ça s'est passé avec la police la première fois?
Bon, écoutez, ça a été très, très fastidieux. Première des choses, je vais dire on, parce qu'on était deux pour aller porter plainte au niveau du même individu. Bon, on s'est présenté. Moi, j'ai pris le soin d'appeler à l'avance, à savoir est-ce qu'on a besoin de prendre un rendez-vous. On m'a dit que non, vous avez juste besoin de vous présenter au poste. Bon, parfait. On arrive au poste. Il y a personne qui est disponible pour prendre notre plainte. On nous dit que ce sera pas long. Il y a un patrouilleur qui s'en vient, il y a sa patrouille, il va être là d'une couple de minutes. Bon. Après une quarantaine de minutes, on réussit à avoir le patrouilleur avec nous. On s'assied avec, explique un petit peu la situation. Et là, ça a été très, très difficile. On a eu droit à des propos que je considère quand même inacceptables, du genre, écoutez, des jeunes de la DPJ qui veulent se revenger de l'ETS, on est habitué de voir ça. Après ça, on a eu, savez-vous que là, ce que vous faites là, on va essayer de vous détruire. Par après de vous, ceux vous voulez faire ça. Chose particulière, c'est des actes qui ont été posés il y a une vingtaine d'années, ce qui veut dire que le patrouilleur a le même âge que nous. Donc, se faire infantiliser comme si on avait encore 17 ans, c'est assez particulier. Mais ça l'ouvre la porte à des gens qui pourraient revirer de bord assez rapidement. Là, on s'entend. Donc, c'est l'expérience qu'on a eue, assez pour dire qu'à la sortie, le directeur du bureau nous a pris chacun avec lui pour nous expliquer qu'écoutez, il nous donnait ses excuses. C'est pas un intervenant qui est facile, c'est pas un patrouilleur qui est facile de prendre ces plaintes-là. On prend ça au sérieux, on vous revient avec un enquêteur, on est sincèrement désolé de la manière dont ça s'est fait, donc nécessairement, ils connaissaient l'individu. Là.
OK. Et est-ce que cette plainte a été enquêtée par ce poste de police ou si vous avez dû aller ailleurs?
Visiblement, vous connaissez le dossier, M.
Oui, ouais, ben, c'est pour ça que je pose la question ouverte, là.
On a, effectivement, ça s'est fait dans le premier poste de police où ce qui était supposé avoir un transfert à l'enquêteur. Il y a eu des premiers contacts avec cet enquêteur-là. Pour X raison, il nous a transféré à un deuxième enquêteur qui était dans un autre poste. Avec laquelle encore là, faut pas se leurrer à toutes les fois qu'on change d'intervenant, toutes les fois qu'on change d'enquêteur, faut réouvrir l'histoire.
Donc, OK, mais en résumé, là, Philippe, vous avez raconté combien de fois votre histoire à combien de personnes avant que la plainte soit enregistrée formellement?
Si je calcule, on a transféré aux trois postes plus la déposition vidéo à Québec, on parle de 6 individus différemment.
Puis vous avez raconté votre histoire quoi, 4 fois?
4-5 fois facilement. Là.
Ces délais là, puis ces changements de lieu peuvent décourager n'importe qui. Là. C'est-à-dire que quand tu sens que faut recommencer, puis raconter l'histoire, à un moment donné, tu peux dire, bon, ben là, c'est trop compliqué, puis je m'en retourne chez nous.
Ben oui, absolument. Quelqu'un qui est pas solide psychologiquement, qui est pas vraiment, qui assume pas le processus, définitivement, il y a des portes de sortie là à tour de bras. Puis ça, c'est la première étape. Hein. C'est l'étape juste au niveau des enquêteurs et de porter plainte.
OK. L'autre étape?
L'autre étape, c'est au DPCP.
OK. Comment ça s'est passé, là?
Bon, ça a été excessivement fastidieux. On commence avec un premier procureur au DPCP. C'est lui qui étudie le dossier. C'est lui qui est en lien avec l'enquêteur. Donc, lui, il se fait une vision. Il dépose les chefs d'accusation. Lui, il a en tête le dossier. Il le connaît bien. Décide de changer de département. On tombe, après 6 mois, on tombe avec un autre procureur qui, elle, est au dossier. Donc, encore là, on réouvre. On lui reparle. Elle nous repose des questions sur le dossier. Elle veut s'imprégner du dossier. Donc, nécessairement, elle nous reparle. Et après, en fait, un mois avant le procès, parce qu'il y a eu un procès qui a été cédulé pour 5 jours, un mois avant le procès, je me dis, bon, il va y avoir un suivi, il faut qu'on se rende compte, quelque chose, un certain coaching, j'appelle, et là, on me dit que non, ça sera plus cette procureure-là, c'est transférer le dossier à une autre à Laval.
On recommence.
Pour X cause ou peu importe. Fait que là, on recommence. On a eu, je tiens à le dire, on a un excellent service. La dernière procureure, puis même chose au niveau des enquêteurs, mais on s'entend qu'il y a une dilution de la maîtrise du dossier quand on passe d'un intervenant à l'autre, définitivement.
Bon, finalement, on est allé en procès, puis je le disais tantôt, l'individu a été condamné. Au terme de ça, première question, est-ce que vous regrettez d'avoir porté plainte?
Pas du tout. Pas du tout. Ce qui m'a fait vous parler un petit peu là, aujourd'hui, M. Sarkar, vous avez eu une entrevue cette semaine pour laquelle vous disiez c'est important d'avoir un suivi et un coaching pour ce qui est de ces étapes-là. C'est ce qui m'a vraiment interpellé. Donc non, définitivement, dans mon cas, l'important n'était pas la peine qui était mise, mais le fait que cet individu-là soit sorti du plat de bonbons, tout simplement. Donc, ça n'a jamais été une question de revanche ou peu importe. Ceci étant dit, je ne regrette pas du tout le processus, mais il était fastidieux.
Deuxièmement, pensez-vous, puis je l'ai déjà entendu, puis c'est un peu pour ça que je vous pose la question, un gars qui porte plainte pour agression sexuelle, c'est moins reçu avec conviction, on a des doutes, vous étiez adolescent. Sentez-vous que ça joue le fait qu'on a 15-16 ans puis qu'on est un gars par rapport à un autre type de victime?
Pour être honnête, M. Arcand, je ne l'ai pas senti dans le processus. Okay. Là où ça joue, c'est personnellement quand nous, on décide d'aller porter plainte. Parce que nous, on se pose la question de savoir, écoutez, j'étais en forme, j'étais fort, j'aurais pu me défendre. C'est vraiment sur le côté personnel qu'on se pose cette question-là, plus que dans le processus.
Et le fait d'avoir porté plainte, le fait que l'individu a plaidé coupable aux accusations qu'on avait déposées contre lui, comme victime, vous vous sentez comment depuis la décision finale devant le tribunal?
Ça finit, on sent que ça finit un petit peu un cul de poisson parce que, on a passé au travers du processus qui est quand même long. Là, on parle de 2 ans et plus, pratiquement 3 ans. Ça se finit d'une manière très, 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 très nette. Donc, il n'y a pas de suivi au niveau des procureurs, évidemment. Et le goût amer qui persiste, c'est quand la juge, d'un, il n'y a pas eu de jugement écrit, et on s'entend, c'est pas un vol d'une Snickers au couche-tard. Il n'y a pas eu de jugement écrit, c'est un jugement verbal qui a été fait. Donc là, il a fallu demander une transcription du jugement. Mais c'est quand la juge, puis là, je la paraphrase, mais je pense que c'est pas mal ce qui a été dit. La juge a dit, bien qu'elle me paraisse très clémente, la demande conjointe n'est pas considérée déraisonnable. Ça laisse un petit goût amer.
C'était quoi la demande conjointe?
La demande conjointe, c'était 420 heures de travaux communautaires, pas d'emprisonnement. C'est la négociation qui a été faite 2 jours avant le procès. Ceci étant dit, juste pour ajouter, l'avocat de la défense à la sortie avec son client, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais ça passe dans l'oreille, il y a un petit peu de travers. Quand il dit, on a commencé avec le premier procureur en négociant 3 ans, il commençait à 3 ans d'emprisonnement. Le deuxième, c'était 1 an, puis là, on est rendu à 420 heures. Un autre, puis on n'avait plus de cause. C'est un peu...
Ouais. Il y a une observation intéressante. Vous dites, moi, je suis quand même assez équipé dans la vie, là, puis peut-être que je suis assez solide sur le plan psychologique. Mais il y a d'autres victimes, c'est pas du tout la même chose. Et que ces victimes-là ont besoin d'être accompagnées à toutes les étapes de la plainte jusqu'au procès.
Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que c'est vraiment ce point-là qui m'interpelle. Je ne sais pas si on peut créer une certaine organisation avec des installations. Parce qu'encore là, de porter plainte dans un petit bureau sur le coin d'une table avec un gars qui est en patrouille puis le beeper qui sonne, on a besoin de quelqu'un sur la 2e avenue, c'est pas un contexte qui est parfait pour effectuer ça. Deuxième des choses, c'est faut pas se leurrer quand on tombe dans ce processus-là. L'accusé, lui, il a son avocat qui travaille pour lui. C'est son client. Nous, au niveau de la procureure de la couronne, c'est pas notre avocate. Elle travaille pour la couronne et elle veut aller chercher la vérité. Donc, il y a personne qui nous coach. Oui, on a un certain coaching, mais il y a personne qui est de notre côté. C'est pour ça, je sais pas s'il y a possibilité d'émettre que ce soit un commissaire au service de plainte ou avec des agents de service qui peuvent soutenir, mais il faut briefer et surtout aux premières étapes. Quand on parle de la plainte, porter plainte, et surtout quand on va mettre notre déposition, qui est souvent une déposition vidéo, du moins dans mon cas, ça fait office ça, de colonne vertébrale de la cause. Donc, c'est important d'être briefé à ce niveau-là. C'est important parce que c'est lorsqu'on lance à l'avocat de la défense, puis c'est ce qui va paraître en cours. Donc, on ne peut pas arriver là pas préparé. C'est excessivement difficile.
C'est clair. Merci, Philippe. Bonne journée à vous.
Merci, bon week-end.
Merci, au revoir. Philippe. Et c'est important. On est en train de vivre des projets pilotes de tribunaux spécialisés. Pardon, c'est une chose. Mais combien de victimes se découragent? Quand vous regardez les chiffres, entre le moment où quelqu'un dépose une plainte, Et la plainte qui voyage dans le système, il y a beaucoup de ces victimes potentielles, alléguées, diront certains, qui retirent. Trop compliqué, trop de pression. Puis on peut avoir toutes les raisons au monde. Mais ces étapes-là sont fondamentales. Et là où Philippe a parfaitement raison, c'est quand tu fais une déposition, ben, t'es mieux d'être prêt puis d'être très conscient de ce que tu dis parce que ça va être débattu puis la défense va essayer de te contredire puis va essayer de montrer les faiblesses, les points d'obscurité, les points... Bref, c'est quelqu'un qui se retrouve à cogner et à raconter 4, 5, 6 fois son histoire à 4, 5, 6 policiers différents. Lui est allé jusqu'au bout. Mais il y en a d'autres qui vont peut-être dire, hey, ça, c'est à part les procureurs. Puis là, il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit comme d'habitude. C'est de faire un constat puis de dire, on soulignait le 5e anniversaire du MeToo là, cette semaine, moi aussi. Tribunal spécialisé, très bien, mais ce qui amène au tribunal spécialisé, il y a peut-être un peu de travail à faire.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Revenons sur les élections de lundi. On va regarder deux aspects ce matin. On sait que dans Rouyn-Noranda, un des enjeux qui n'était pas local, mais qui est devenu national au fil des mois, c'est tout le dossier de la fonderie Horn et des émanations d'arsenic. La députée sortante de QS, Émilise Lessard-Terrien, a perdu. Et elle n'a pas réagi, évidemment, dans les premiers jours, on peut comprendre, mais elle a accepté notre demande d'entrevue. Elle est avec nous ce matin. Émilise Lessard-Terrien, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, peut-être nous dire un peu, partager avec nous l'analyse que vous faites du résultat de lundi soir.
C'est difficile pour moi de faire l'analyse. Tous nos indicateurs à nous étaient bons. Avant l'élection, les gens m'arrêtaient dans la rue, les gens étaient tellement contents, m'encourageaient, me disaient qu'ils avaient voté pour moi. Vraiment, la vibe était tout autre. Donc, on est tombé un peu en bas de notre chaise avec les résultats de lundi soir. Puis, je laisserai les analystes faire l'analyse plus poussée de ce qui s'est passé.
OK. Vous avez porté à bout de bras là, ce dossier-là de la fonderie Horn. Vous vous êtes battu. Durant la campagne, puis dans les derniers jours, le premier ministre a dit, ben, c'est aux citoyens de décider, puis ultimement, on ira peut-être faire un référendum dans le coin, puis bon. Avez-vous l'impression qu'en votant pour le candidat de la CAQ, les gens de votre comté ont dit, ben, on achète ce que le premier ministre propose, puis on achète le plan de la fonderie Horn?
Je suis pas certaine de ça, parce que les seuls qui ont fait planer la fermeture de la fonderie, c'est François Legault, c'est la coalition Avenir Québec, et c'est ça que les gens avaient peur de la fermeture de la fonderie. Nous, on a toujours été clair qu'on ne voulait pas la faire fermer, mais qu'on voulait le respect des normes. Mais s'il y a une chose dont je suis fière, c'est que le plan qui a été déposé par la fonderie n'a pas d'avenir. Il ne permet pas de répondre, de protéger la santé de la population de Rouyn-Noranda, mais ne permet pas de répondre non plus à nos enjeux d'attractivité, qui sont très chers à la ville de Rouyn-Noranda, et avec raison. Et donc, il devra y avoir autre chose qui soit proposée à la population, parce que pour l'instant, ça ne passe pas à ces deux niveaux-là.
Est-ce que la ville est vraiment divisée sur la question? Moi, je suis de Montréal, là, puis je regarde ça de loin, puis je me dis, OK, je vois les médecins de santé publique, je vois des groupes communautaires, je vois votre travail, bien sûr, puis des citoyens qui vivent peut-être plus à proximité. Mais comme s'il y avait à Rouyn-Noranda une autre partie, peut-être plus une clientèle, je sais pas moi, de gens d'affaires, des gens qui se disent, il y a des enjeux économiques là importants reliés à la fonderie. Est-ce que Rouyn-Noranda est comme deux camps qui s'affrontent?
Mais on a beaucoup laissé planer ça, ces deux camps-là. Moi, honnêtement, je l'ai pas tellement senti. La ville de Rouyn, quand ils ont rencontré le premier ministre jeudi dernier, l'ont dit que le plan n'allait pas assez loin, qu'il fallait être plus ambitieux. Moi, j'ai senti beaucoup plus de consensus autour de la norme québécoise, autour d'une norme qui va protéger la santé de la population. Puis ce qui est sur la table en ce moment, ben, il y a pendant 5 ans, il y a des risques pour les femmes enceintes, il y a des risques pour le développement des enfants. Puis ça, c'est pas acceptable. Puis moi, j'ai beaucoup plus senti un consensus pour ça.
Vous avez dit tantôt au début, on était convaincus de l'emporter, les gens nous encourageaient sur la rue, on sentait la victoire. Quand la défaite, parce que c'est une défaite quand même, 4000 voix de différence, là, en gros, vous dites, on l'a pas vu venir. Là. Sincèrement, c'est quoi l'effet quand on pense qu'on gagne puis qu'on se fait répondre ça par les citoyens?
C'est très douloureux. Quand je regarde le tsunami Kakis sur l'ensemble du Québec, quand je regarde la centaine et les centaines de personnes qui m'ont écrit pour m'envoyer plein d'amour, disons que ça m'aide à ne pas le prendre personnel. Maintenant, c'est sûr que moi, je suis inquiète pour la suite parce que ma région vient un peu de basculer dans l'anonymat. 3 députés caquistes, ça veut dire qui va poser les questions, qui va pouvoir demander à ce qu'il y ait des comptes qui soient rendus sur les décisions qui sont prises pour nous puis qui feront pas notre affaire. Puis moi, ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que c'est là que les médias deviennent si importants. Vous êtes les derniers remparts de notre démocratie. Moi, je pourrais plus poser les questions. Ça va être au David Chabot, au Vanessa Limage, au Samuel Deschênes, au Vincent Tremblay de ma région, d'assurer ce rôle de chien de garde-là. Ça va être extrêmement important. Et je suis navrée pour ma région, mais je vais continuer de suivre ça de plus loin.
Là, je sais qu'il était un peu tôt, mais avez-vous réfléchi au genre d'action que vous souhaitez faire maintenant dans les prochains mois?
Ben, je vais... Non, je sais pas trop de quoi demain sera fait. Je pense que j'ai besoin de repos, d'une convalescence. Ça a été vraiment des mois très intenses dernièrement. Après, je vais voir comment la lutte va se dérouler maintenant sur le terrain. Est-ce que les citoyens et citoyennes de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, ils voient encore un rôle pour moi dans les différentes luttes que nous devrons mener? Puis bon, on dit qu'on quitte la politique pour mieux y revenir plus tard. On verra si c'est ce qui va se passer pour moi, mais j'ai encore le feu, j'ai toujours été quelqu'un d'impliqué, puis je vais continuer de l'être, c'est certain.
Merci beaucoup. Bonne chance à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir. Émilise Lessard-Terrien, donc, était députée de Québec solidaire pour Rouyn-Noranda jusqu'à lundi.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Pascal Bérubé est avec nous. On a cru longtemps qu'il serait peut-être le seul député du Parti québécois à l'Assemblée nationale, réélu, 6e mandat. Et notons que c'est le candidat, donc député, qui a reçu l'appui le plus important. Plus de 67% des voix. Il est avec nous. Pascal Bérubé, bonjour.
Bonjour.
Vous avez cru peut-être vous aussi que vous seriez seul député du PQ.
Le survivant désigné, comme disaient certains. Je le souhaitais pas, je souhaitais avoir des collègues avec moi. Et puis plus la campagne avançait, plus je me disais, on va en avoir un certain nombre. Grande déception le soir de l'élection. C'est pour ça que j'avais pas envie de parler, ni à votre antenne rapidement, ni ailleurs. J'étais déçu et je trouvais qu'on méritait un meilleur sort. Et j'ai des personnes en tête. Mégane Perry-Melançon dans Gaspé. Étoile montante de la vie politique, nommée par ses pairs à l'Assemblée nationale à 2 reprises, qui est battue. Et là, je réagissais quand j'entendais l'entrevue avec Émilie, qu'est-ce qui s'est passé? Partout au Québec, on a réalisé que le vote libéral s'est tellement effondré qu'il y a une corrélation parfaite. Tout ce qui est fédéraliste francophone au Québec est passé à la CAQ. Dans le cas de Gaspé, ils sont passés de 38% à 8%. Tout le monde est allé à la CAQ. Donc, on a même augmenté les votes. C'est peut-être le cas d'Émilie, mais Mégane a augmenté dans Bonaventure puis ailleurs, mais le transfert est parfait. Donc, c'est ce qui a fait en sorte.
Vous avez dit la déception. L'état d'esprit, lundi soir...
Le mot est faible.
Et le mot est faible?
Oui.
C'est-à-dire?
Déception, j'étais fâché. Je veux dire, les gens viennent à votre antenne, puis des fois, ils disent, ah, je suis philosophe avec ça. Oui, mais au début, on n'est pas de bonne humeur. Moi, j'étais heureux de mon résultat, mais c'est pas pour ça que je suis en politique, pour gagner des records, pour faire triompher mon équipe. J'étais très déçu. Paul Saint-Pierre Plamondon méritait un meilleur sort que ça, avec la campagne qu'il a menée. Et je réalise qu'il y a plein de gens, puis encore aujourd'hui, qui lui disent, vous avez bien fait ça, heureusement que vous êtes là. Mais vous avez fait quoi? J'ai voté pour la CAQ. Donc, bon, ça sera pas cette fois-ci, mais ce que je retiens quand même. À l'extérieur de Montréal, on est la 2e force politique. Le nombre de comtés, on est 2e, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a une force de croissance. Puis 40% des francophones ont dit qu'on avait fait la meilleure campagne. Donc, il y a des signaux verts. Ça ne donne pas nécessairement de vote, mais ça offre de belles perspectives pour l'avenir.
Quand vous dites des perspectives, parlons d'un sujet bien important, celui de la reconnaissance du statut d'opposition. Deux partis, le vôtre et Québec solidaire, qui ne correspondent pas parfaitement aux règles. Ouais. Par contre, en termes de voix, on le sait, là, le Parti libéral, c'est l'opposition officielle par défaut. Ils arrivent derrière le Québec solidaire et vous. C'est quoi la différence? Expliquez ça aux gens, parce que le commun des mortels, on ne sait pas c'est quoi. On y est élu, ils font un groupe d'opposition. Okay. La différence d'être reconnu ou pas?
La reconnaissance, c'est deux choses. C'est de l'argent puis du temps, essentiellement. L'argent pour engager du personnel, parfois plus d'un million de dollars, de personnel à l'Assemblée nationale, de recherche, des fonds de fonctionnement. Et le temps, c'est la période des questions. Combien de questions on pose dans une semaine en commission parlementaire? C'est ça qui est en jeu. Donc, si on n'a pas ça, ben, ça réduit considérablement notre visibilité. Et là, le Parti libéral a obtenu 21 sièges. Faut noter les chiffres. Mais ils ont moins de votes que le Parti québécois, qui en a obtenu 3, dont le mien. Donc, ça n'a aucun sens. Puis Québec solidaire a obtenu plus de votes que les libéraux. Il y a 11 sièges. Il y en a 21. Donc, je vous écoutais un peu plus tôt ce matin. Les gens n'ont pas choisi les libéraux comme opposition officielle. C'est un concours de circonstances. On a additionné chacune des luttes là, dans l'ouest de l'île. Puis ça a donné ça. Et je crois comprendre qu'est-ce qui se passe présentement. Madame Anglade et son caucus ne veulent pas reconnaître nos deux formations politiques, mais pas tellement la nôtre. Québec solidaire. Ils en ont contre eux. Ils ont gagné deux comtés, Maurice Richard et Verdun. Et ils veulent pas leur donner de visibilité. Pas d'oxygène, pas de possibilité de poser beaucoup de questions. Et on serait en ordre dispersé. C'est ça qui risque d'arriver. Paul Saint-Pierre Plamondon a parlé avec Dominique Anglade hier et on a compris que c'est son caucus là où ça bloque. Sauf qu'ils veulent plus rien savoir de d'autres partis. C'est entre eux et la CAQ et ils seront l'alternative. Ça marche pas comme ça. 600 000 votes pour le Parti québécois, ça vaut quelque chose. On est trop à porter ça. C'est une voix qui est importante à entendre. J'écoutais hier les premiers ministres qui étaient là heureux comme ça se peut pas avec son équipe. Puis là, ils se plaignaient qu'il y en a 35 qui n'ont pas gagné. Je sais pas si le mémo de l'humilité de 2018 est encore valide, mais ça prend du monde qui les ramène à l'ordre de temps en temps. Et c'est notre rôle, mais ça prend des moyens pour ça.
On pourra pas faire le tour de l'ensemble des questions ce matin, mais je veux vous entendre sur l'immigration qui, visiblement, là, va être un enjeu important. Là. Puis avec les dérapages qu'on a connus durant la campagne, le Radio-Canada dit ce matin que M. Trudeau a un plan en tête, c'est-à-dire régulariser le statut de 500 000 sans-papiers. C'est quoi votre réaction?
Deux choses. D'abord, sur les pouvoirs en immigration demandés par Québec, la réponse est venue très rapidement. Vous avez beau élire 90 députés, 125 députés, ça arrivera pas. Donc, ceux qui pensaient qu'un mandat fort de François Legault, ça allait donner des résultats, la réponse est non. Arrive cette nouvelle ce matin, c'est quand même important, régulariser des centaines de milliers de personnes. Le gouvernement du Québec peut dire non, mais ils vont le faire pareil. T'sais. C'est un État, l'État canadien, puis il a ces pouvoirs-là, puis on peut pas le bloquer. Alors, si on pensait que le gouvernement de la CAQ est un rempart pour avoir des taux d'immigration qui sont acceptable compte tenu de notre capacité de franciser, d'intégrer en emploi, en logement et tout ça, ça marche pas. Et même au Québec, 50 000, c'est le chiffre de Jean Charest. François Legault, c'était 40 000 son chiffre en 2018. Donc, on est en train de normaliser des taux très élevés qu'on n'est pas capable d'absorber correctement si on veut bien accueillir les gens. Et l'immigration, le premier ministre dit, ça sera un enjeu de la prochaine élection fédérale. C'est un enjeu maintenant. On fait quoi, là? On parle plus fort, on dit, voici nos députés. Ils sont morts de rire, là, à Ottawa. T'sais, premier ministre Legault, là, c'est bien le fun, là, mais c'est pas lui le boss.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, ce matin, dans la presse, on a des chiffres concernant les élèves qui redoublent. Et on a vu qu'au Québec, il y a eu des cycles. Les plus vieux se disent, ben, à une époque, c'était une pratique qui existait. T'avais des échecs, puis tu recommençais ta deuxième, puis ta troisième année. Après ça, c'est comme disparu complètement. C'est revenu un peu, et les chiffres montrent que même si pendant la pandémie, il y a des élèves qui ont eu plus de difficultés, il n'y a pas plus d'élèves qui redoublent. C'est une pratique qui est plutôt rarissime, en tout cas peu utilisée au Québec. Puis ça inquiète beaucoup de parents, je dois dire, qui se disent, ben, il me semble que, vu les résultats de mon fils ou de ma fille, je pense que ce serait peut-être mieux qu'ils recommencent. Et il y a un cas qui était dans la presse, un parent, une mère qui rencontre la direction de l'école en disant, l'enseignante pense que, l'orthopédagogue pense la même affaire, que ce serait préférable que l'enfant, ben, redouble. Et ça n'a pas été accepté. Je fais le point avec Égide Royer, qui, vous le savez, est un spécialiste de la réussite scolaire. Monsieur Royer, bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est vrai qu'au Québec, c'est assez rare, là, un élève qui redouble.
C'est devenu beaucoup plus rare. Là. L'article, d'ailleurs, de Mme Leduc est très bien fait, entre autres, sur la question de l'histoire. Mais ce qu'on sait néanmoins, c'est qu'écoutez, il y a environ 80 000 jeunes qui rentrent chaque année au primaire au Québec. La majorité de ces jeunes-là vont faire leur primaire en 6 ans. Quelques-uns vont le faire en 5 ans. Et j'ai toujours eu un certain nombre de jeunes qui avaient besoin de 7 années pour atteindre les objectifs du primaire. Ça, ça a toujours été le cas. Mais avant de décider justement de donner cette 7e année-là, de redoubler si vous aimez mieux, le contexte, moi je l'ai fait pendant 10 ans sur des comités là, trop de promotion primaire. Lorsque l'enseignante ou l'enseignant, puis l'orthopédagogue, ceux qui connaissent très bien les jeunes, se disent, malgré des mesures d'aide, malgré du tutorat, malgré de l'orthopédagogie, ce jeune n'a aucune chance de réussir l'an prochain s'il monte d'année. Lorsque des gens qui connaissent bien le jeune en arrivent à cette conclusion-là, ça devient justifié de faire reprendre une année avec de l'aide. Pas simplement un duplicat, une copie, un copier-coller là, à l'identique, mais de faire reprendre l'année avec certaines mesures d'aide lorsque c'est recommandé par des gens qui connaissent bien le jeune, puis que le jeune n'a pas de chance de réussir si on ne fait pas ça l'an prochain, ça demeure justifié. Mais c'est devenu quasiment comme une religion. Autant on faisait beaucoup doubler dans les années 90, tout d'un coup on s'est dit non, redoubler c'est mauvais. Donc on se retrouvait avec des cohortes de jeunes qui, entre autres, arrivaient en 3e année sans savoir lire ou au secondaire avec des grandes difficultés.
Bon, ben justement, ces élèves qui savent pas lire, puis ces élèves qui ont de grandes difficultés, si on ne les fait pas redoubler, qu'est-ce qu'on fait avec eux pour pas justement qu'ils fassent tout le parcours puis qu'ils soient pas prêts à aller au secondaire, par exemple?
Écoutez, très concrètement, regardez, M. Sarkin, vous avez un jeune, là, vous êtes le père d'un jeune de 5e année ou de 6e année. Pendant 6e année, il y a déjà des retards de scolaires importants, il n'a jamais redoublé. Normalement, l'école devrait vous discuter avec vous, surtout les jeunes, les gens qui connaissent bien votre jeune, en disant, est-ce que le fait d'avoir certaines activités pédagogiques durant l'été entre la 6e année et le première secondaire, spécifiquement en lecture, pourrait lui donner un coup de main? Est-ce que le fait, entre autres, d'être accompagné par une forme, par du tutorat, je pense au programme qu'on a actuellement au Québec, en première secondaire, pourrait lui permettre de quand même bien fonctionner au secondaire? Mais lorsqu'on prend l'ensemble des mesures d'aide, on a bien la conclusion que, écoutez, ça même malgré ça, votre jeune, il y a un niveau de compréhension de lecture de 4e année, on l'enverra pas en première secondaire comme ça. Donc là, ça devient justifié de reprendre une année, mais toujours en offrant des mesures d'aide. J'avais échangé d'ailleurs avec M. Provencher, qui avait communiqué avec moi, le protecteur, sur ces questions-là. Et c'est sensiblement ce que je lui ai dit, puisque je retrouve dans le journal ce matin. C'est que les recherches sont assez claires. On n'en fait pas un dogme en contexte des gens qui connaissent bien les jeunes, qui sont spécialisés en pédagogie, comme l'enseignant orthopédagogue. Quand ils en viennent à la conclusion qu'on ne peut pas faire autrement, et que ça devient une mesure susceptible d'aider les jeunes tout en lui donnant de l'aide, ben ça devient justifié.
Mais
fait du mur à mur.
Ouais, je comprends quand vous dites quelqu'un qui a des problèmes, un jeune de en 5e année, 6e année, ben qui puisse faire du rattrapage, qu'on puisse l'encadrer, qu'on puisse lui offrir des cours en été par exemple. Ça c'est l'idéal. Est-ce que ça se fait ou s'il y a des jeunes qui ont tous ces problèmes là puis qui sautent directement l'année suivante?
Ma connaissance du secteur, c'est le fait que j'ai des jeunes qui, ce qu'on appelle la promotion automatique, ils suivent leur groupe d'âge. Ce qui est devenu une religion d'une certaine manière depuis quelques années, c'est qu'en disant pour protéger l'estime de soi du jeune, on va le faire suivre son groupe d'âge. Donc je monte automatiquement, ou presque. Mais cette question-là de l'estime de soi, c'est quelque chose qui est tout à fait bizarre parce que être assis dans une classe de première secondaire et avoir un niveau de lecture de 4e année, là, entre vous et moi, est-ce que c'est bon pour l'estime de soi? Je penserais pas, non. Et dans ce cadre-là, cette idée de promotion sociale ou de promotion automatique, en disant on ne fait jamais doubler, pour un certain nombre de jeunes, ça a posé problème. Surtout si on ne fait pas doubler et on ne donne pas de mesure d'aide en plus.
Ben c'est ça, parce que les parents qui m'écrivent depuis ce matin disent mon fils ou ma fille, j'ai un cas précis là, c'est un ado de 14 ans. Les parents arrivent à la conclusion avec le prof qu'il peut pas aller à l'année suivante. Puis qu'idéalement, ce serait mieux de l'encadrer avec des mesures, par exemple, des périodes de cours durant l'été, puis un encadrement plus suivi. Puis il n'est pas capable de lui donner ça. Puis on dit aux parents, on peut pas le garder à son niveau actuel. On l'envoie au niveau suivant, mais il est pas équipé pour le faire. Puis on n'a pas l'intention de l'équiper pour le faire.
Alors là, on a un problème. C'est parce qu'on peut pas prendre une décision pédagogique ou éducative en disant que ça mène à l'échec d'un jeune. Je regarde entre autres, moi j'étais à l'origine de la recommandation pour le programme de tutorat au Québec. Il y a 73 millions cette année, je pense, qui ont rajouté là-dessus. C'est un programme qui va rester là. Mon gars est en train de couler en mathématiques en 3e secondaire. Le minimum pour le parent, c'est entre autres l'orthopédagogie et les services, de demander est-ce que mon jeune peut être accompagné par un tuteur. Beaucoup de parents qui ont des sous, d'ailleurs, le font, ils engagent des tuteurs au privé avant qu'on ait ce programme-là. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui existent là et qui doivent être mises en place. Parce qu'en bout de ligne, c'est consacrer l'échec scolaire des jeunes. C'est comme d'habitude, c'est majoritairement des garçons qui sont dans cette question-là. Écoutez, je dois vous rappeler que les chiffres récents qu'on a eus, c'est qu'il y avait seulement à peu près 54-55% des garçons qui avaient accès au cégep, 74-75% des filles. Donc, quand vous êtes rendu à peu près à 1 sur 2 ou à 3 sur 4, on échappe beaucoup trop de jeunes qui pourraient compléter avec un des diplômes de secondaire ou aller au collégial. Mais c'est-à-dire que les retards scolaires deviennent cumulatifs et ces mesures d'aide, et lorsqu'on a besoin vraiment là, d'avoir une 7e année au primaire, de redoubler au primaire, si je prends l'exemple de ce niveau-là.
Parfait, merci beaucoup, M. Royer. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Égé de Royer, qui est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Bon, beaucoup de choses ce matin, le Canadien, Hockey Canada, mais d'abord, on va parler de l'annonce qui a été officiellement faite hier de ce départ d'Eugène Lapierre.
Qui quitte la direction de l'Omnium Banque Nationale de tennis.
Tout en restant dans le décor quand même, pas
trop
loin.
Oui, c'est ça. Et il va être quand même à la disposition de la nouvelle directrice, Valérie Tétrault. Et lui va se consacrer au développement du tennis de masse, disons, au lieu de l'élite. Alors, il est avec nous ce matin. Eugène Lapierre, bonjour.
Bonjour.
Eugène, est-ce qu'au moment de la présentation de l'Omnium Banque Nationale cette année, là, au mois d'août, la décision était prise?
Oui, oui, elle était prise. Elle était prise depuis un petit bout de temps. Mais je voulais pas l'annoncer avant le tournoi. Je voulais pas que ça crée une distraction puis que ça, j'avais l'impression que ça pouvait amener des troubles pour le monde là, qui aurait voulu célébrer whatever, je sais pas quoi, mais en tout cas, je regarde, on a assez d'affaires comme ça là. On va faire le tournoi, on annoncera ça à l'automne, donc c'est ça. En fait, j'avais pensé déjà avant la pandémie, mais j'arrivais à ma 20e présentation du tournoi en 2020, et puis là on n'a pas eu de tournoi, puis là en 2021 c'était pas fort comme tournoi, on était à moitié ou au quart des spectateurs, et donc ça nous a amené jusqu'à 2022, mais je préparais ça tranquillement, effectivement.
Bon, là, vous avez décidé de rester dans l'entourage de Valérie, mais aussi de vous consacrer au développement du tennis de masse, appelons ça comme ça, là. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de l'élite, vous aviez fait le tour du jardin?
Ben en fait, nous, avec le tournoi, le rôle était de faire en sorte que le tournoi apporte le plus d'eau au moulin possible au développement. C'est la mission de Tennis Canada et donc c'est le but premier de ce tournoi-là, l'Omnium Banque Nationale qu'on présente à chaque année, c'est de faire en sorte que ça puisse financer le développement du sport. Et on l'a bien fait, mais on a surtout développé le haut de la pyramide, si on veut. Donc on a mis beaucoup d'emphase sur le développement des athlètes de pointe, puis on l'a vu, ça a marché. À partir du moment où on a créé un centre national avec Raonic, Vasek Pospisil, Eugénie Bouchard, et c'est maintenant on les voit, là, les Bianca, Leila, Félix Auger-Aliassime et compagnie. Donc, ça a bien fonctionné. Ça crée de l'engouement. Maintenant, il faut s'occuper un peu plus du bas de la pyramide, à mon sens. Je pense qu'il manque d'installations ou d'occasions pour des jeunes de jouer au tennis à l'année longue. Les jeunes et monsieur tout le monde aussi. On a des arénas, on a des soccer intérieurs, on a des piscines, on a des gyms, on a toutes sortes d'affaires, mais on n'a pas... Si quelqu'un veut jouer au tennis, il faut aller dans un club privé, ce qui est pas mauvais. Il y en a plein, puis ils fonctionnent très, très bien. Mais j'aimerais ça que ce soit plus... trouver des options plus abordables pour qu'il y ait plus de jeunes qui puissent jouer au tennis à l'année longue.
Vous venez de parler du rôle puis de la mission de Tennis Canada. Quand vous regardez ce qui se passe actuellement à Hockey Canada puis d'autres fédérations de sport, quelle sorte de réflexion vous avez sur ça?
Écoutez, c'est un sujet extrêmement important. Et à Tennis Canada, on a mis en place, ça doit faire au moins 7 ans de ça, 6-7 ans, un programme de sécurité sportive pour les jeunes. Parce que c'est dangereux, là. C'est dangereux, faut pas vous faire peur au monde, là. Mais il y a beaucoup d'adultes sont en contact avec des jeunes constamment. C'est sûr qu'il y a toujours des choses qui peuvent arriver. On est chanceux, on croise les doigts, on n'a jamais eu de problème, on fait attention et on fait une formation surtout de tous les entraîneurs. On essaie de l'étendre le plus possible dans tous les clubs au Canada. pour faire en sorte que les gens qui sont en position d'ascendance, là, peu importe de quelle façon, que ce soit coach, entraîneur, de dirigeant de club, accompagnateur et ainsi de suite, soient conscients de leur rôle, de leur responsabilité. Et donc, on a mis en place vraiment un système de ce côté-là, de safe sport en anglais, de sécurité pour les jeunes. À date, on est assez fiers d'avoir pris les devants un petit peu, parce qu'on voit plein de choses qui se passent. Ça a commencé avec dans la gymnastique du côté des États-Unis. Il y en a eu, en tout cas, on a entendu toutes sortes de choses. Alors, en ski ici, et on n'est pas à l'abri de rien, mais il faut faire attention.
Mais l'autre chose, là, si vous étiez à la tête d'une fédération, puis vous voyez des commanditaires se retirer l'un après l'autre, vous voyez la ministre puis le premier ministre qui vous demande de vous en aller. Pourquoi ces gens-là, d'après vous, s'accrochent autant? C'est de garder le pouvoir, c'est un club select, un lobby fermé?
C'est bien intriguant. Quelque chose à dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il semble que ça serait... Tu sais, si on dit oui, merci, on a essayé, on a fait le mieux qu'on pouvait, mais ça n'a pas fonctionné, on va laisser la chance à d'autres. Mais j'ai aucune idée. Il me semble que avec toute la pression qui est mise de la droite à gauche à partir du milieu politique, quand le gouvernement fédéral te montre une certaine direction, il me semble que c'est difficile de continuer de résister. Mais enfin, on va les laisser se démêler avec ça. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est s'occuper de nos affaires puis s'assurer qu'on essaie de faire les choses le mieux possible.
Ben merci d'avoir été avec nous, Jean. et on va suivre évidemment vos projets. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Jean de la Pierre.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.